Hello, je suis Aline, coach business chez The Beboost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 270 du podcast Je peux pas, j'ai business. Et aujourd'hui, on va parler de marque personnelle que vous connaissez aussi peut-être sous le nom anglophone de personal branding. La marque personnelle, c'est comment construire une identité de marque, c'est-à-dire être reconnaissable pour ce qu'on fait, pour son business, pour son entreprise, mais autour de soi, autour de sa personne. Comment nous, notre personnalité va incarner notre entreprise. Et c'est une stratégie très 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 connue aujourd'hui, très efficace aussi, qui emprunte un tout petit peu au code de l'influence sans pour autant nous transformer en influenceur. Et pour aborder le sujet, je ne serai pas seule aujourd'hui et qui de mieux pour m'accompagner que notre chère Caroline Mignot, que vous connaissez déjà peut-être, que j'ai la chance de côtoyer également dans la vraie vie, qui est déjà intervenue sur le podcast « Je peux pas, j'ai business » à deux reprises aujourd'hui dans l'épisode 130 et dans l'épisode bonus « Arrêtez de prospecter et commencez à réseauter » qui est paru en 2022. Elle a été aussi conférencière au Bichot qui est mon séminaire sur deux jours qui se déroule tous les automnes à Paris et je sais que beaucoup d'entre vous avaient adoré son intervention. Et Caroline sort son premier livre en date du 2 mai 2024, donc quelques jours après la date de mise en ligne de cet épisode, son livre qui s'appelle « From Zero to Hero, bâtir son influence sur les réseaux », sur comment craquer les codes des réseaux, faire exploser sa marque personnelle pour mieux vendre ensuite sa marque, ses produits et ses services. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir mon échange avec Caroline. Restez jusqu'au bout, vous allez voir, c'est pépite. Hello Caro, bienvenue, re-bienvenue même je devrais dire, sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui?
Écoute, je suis trop contente Aline d'être de retour chez toi. La dernière fois qu'on s'est vus, c'était à l'événement incroyable que tu as organisé. Franchement, c'était un des plus beaux moments de mon année et j'espère que tu le feras d'ailleurs l'année prochaine. En tout cas, je suis hyper contente de te revoir cette fois virtuellement et à chaque fois, ça me rappelle tous les souvenirs qu'on a partagés ensemble.
Mais tu sais que juste avant, en préparant cet épisode, je faisais un peu l'historique de tous les contenus qu'on a créés ensemble. On a un gros contenu par an ensemble. En 2021, c'était l'épisode 130 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Ensuite, en 2022, c'était l'épisode bonus « Arrêter de prospecter et commencer à réseauter ». Et en 2023, ta conférence sur les réseaux sociaux et les algorithmes qui avait cartonné au séminaire The Bichot. Et là, en ce moment, on est en train d'enregistrer un épisode. Et du coup, mon nez me dit que ça va être un super épisode sur la marque personnelle.
Eh ben, il paraît que je sors de presque 3 mois d'écriture, de réécriture même, de mon livre « From Zero to Hero ». Donc, je suis hyper chaude pour venir vous partager toutes mes recettes sur la marque personnelle, sur les réseaux sociaux et même en off dans la vraie vie.
Effectivement, tu vas bientôt ajouter la casquette d'autrice à ta multiple casquette. J'avais employé une description que j'aime beaucoup et que je vais garder aussi pour cet épisode de podcast qui, pour moi, car si j'avais une phrase pour te décrire, je dis la femme qui murmure à l'oreille des algorithmes, parce que quelle que soit la plateforme sur laquelle tu essayes de te démarquer et que tu lances, en fait, ça cartonne tout de suite. Tu l'as fait avec le podcast, avec YouTube, avec les shorts, avec Instagram, avec Clubhouse, à l'époque à laquelle on s'est rencontrés, hein, n'oublions pas Clubhouse. Et à chaque fois que je te vois décoller, je me dis waouh, mais en fait, elle a tout compris, elle a cette fameuse recette magique qu'on cherche tous. Et donc aujourd'hui, tu vas nous donner les secrets de la marque personnelle.
Exactement, et pour rassurer ceux qui nous écoutent et qui se disent « Oh là là, le succès, ça a toujours l'air fulgurant de l'extérieur », souvenez-vous que toutes les réussites de marque personnelle, tous les gens auxquels on pense, eh ben, finalement, ils ont galéré pendant longtemps. C'est leur point commun qu'ils ont eu à tous. Et avant d'être excellents, ils ont été moyens pendant longtemps, voire carrément mauvais à leur début. Donc, tu peux retrouver les exemples tout bêtes. Il y a le documentaire sur Squeezie qui m'a complètement chamboulé, que j'ai adoré. Donc, merci Internet pour ceux qui veulent le regarder sur Prime Video, qui raconte toute l'ascension justement de la marque personnelle de Squeezie. Tu vas avoir aussi les exemples de Hugo Décrypte qu'on connaît bien. Tu vas avoir plein d'entrepreneurs en France qu'on a vu émerger du jour au lendemain mais qui en fait travaillaient dans l'ombre depuis un paquet de temps. Donc l'idée de la marque personnelle, d'abord c'est beaucoup d'efforts dans l'ombre, le moment où ça marche pas, qui peut durer des années. Et puis derrière, ce que peu de gens voient aussi, c'est avant de devenir un influenceur mainstream, t'es d'abord le premier de ta niche.
J'ai hâte qu'on commence à creuser tout ça, mais avant ça, pour ceux du fond qui ne te connaîtraient pas, Caro, si tu devais te décrire, on va dire, en 3 grands axes ou 3 grands points, lesquels tu choisirais ? Moi, j'étais incapable de faire un choix, il y a trop de choses à dire.
En gros, je suis entrepreneur dans le marketing et je n'ai pas du tout fait du marketing par défaut. J'ai fait du marketing parce que je trouve que le marketing, c'est la meilleure clé d'entrée, la meilleure préparation à l'entrepreneuriat. En fait, pendant 9 ans, je lançais des marques aux États-Unis, des marques françaises, et je ne m'étais pas rendu compte que j'étais déjà entrepreneur sans mettre de mots dessus, parce que le marketing, et ce qui le rend aussi passionnant, c'est tout simplement la science qui fait que l'offre rencontre la demande. Donc, c'est une analyse très poussée du marché, donc la psychologie du consommateur, qu'est-ce qui fait rêver les gens, qu'est-ce qui habite nos conversations, qu'est-ce qui nous angoisse aussi, qu'est-ce qui nous agite. Et puis, derrière, c'est qu'est-ce qu'on peut trouver comme réponse pour que le monde soit meilleur. Et souvent, on dit le marketing, c'est consommer plus. Moi, j'aime bien dire, c'est consommer mieux. Et du coup, je défends un gross marketing qui est éthique, en tout cas, qui fait les choses bien dans les règles de l'art et qui aide beaucoup d'entrepreneurs, en fait, à justement, en faisant moins de choses, avoir de meilleurs résultats. Et dans le monde des indépendants qu'on connaît aujourd'hui, et beaucoup écoutent ton podcast, je pense que tu es vraiment une des figures de proue de ce modèle, justement, de soloprenariat, de nana qui se reconvertissent, qui se disent, en fait, moi aussi, j'ai le droit de devenir entrepreneur. Je pense que le marketing donne toutes les clés de façon très démocratique aujourd'hui pour pouvoir se lancer à faible coût et même avec peu de ressources et peu de background.
Exactement. Et j'aime beaucoup la manière dont tu le définis en disant c'est de mettre quelque part le bon produit, la bonne offre en face de la bonne personne au bon moment. Et c'est aussi simple et complexe en même temps que ça. Avant qu'on commence à creuser, parce que j'ai plein de questions à te poser, est-ce qu'on peut redéfinir ce que c'est la marque personnelle ? Je pense que tout le monde a déjà entendu ça sans savoir exactement à quoi ça correspond ? Est-ce que ça veut dire personal branding ? Mais du coup, est-ce que ça veut dire se montrer sur les réseaux sociaux ? Enfin, est-ce que tu peux nous faire une redéfinition du terme ?
La chose la plus simple sur la marque personnelle, c'est de partir de ce que c'est qu'une marque. Une marque, tout simplement, c'est quelque chose qui laisse une trace. Autrement dit, c'est mémorable. Donc, bâtir sa marque personnelle, ça veut juste dire comment faire en sorte que tu puisses montrer tes vraies couleurs. C'est tout simplement ça. Et je trouve que c'est aujourd'hui, c'est un mot qui est un peu agaçant. Personal branding, marque personnelle, c'est galvaudé. Mais c'est surpuissant aujourd'hui de travailler qui on est et au lieu de parler que de son produit et de ses services, passer par sa personnalité, c'est selon moi ce qui va nous permettre de mieux vendre à l'ère de l'IA notamment où tous les contenus vont se standardiser et vont aussi, on va pas se mentir, s'appauvrir quelque part et s'affadir. Et avoir une personnalité qui rayonne, ça va vous permettre aussi de briser vos chaînes, même si vous êtes entrepreneur, on a tous des chaînes. Peut-être que vous vous dites, mais en fait j'ai commencé à lancer ma boîte dans les maillots de bain. Si demain j'ai envie de me reconvertir dans le yoga du visage, je suis prisonnière un peu comme ces acteurs qui ont fait Dawson et qui derrière n'ont jamais réussi à tourner dans un autre film. Et l'avantage de créer une marque personnelle, je compare souvent ça à une holding, c'est te positionner au-dessus de ce que tu vends en tant que personnalité qui derrière peut ouvrir des services ou les éteindre sans jamais en être dépendante. Donc c'est ça l'idée, c'est pas rentrer dans les cases, c'est justement en sortir. Et même pour les entrepreneurs, une profession, on se dit on a de la liberté. Souvent on se dit, si je vends ma boîte, si j'en acquiers une nouvelle, est-ce que quelque part je suis vraiment libre ? Est-ce que les gens vont pas se dire que c'est contre-intuitif, c'est contradictoire ? La marque personnelle, ça fait que c'est jamais un problème d'ouvrir ou de fermer un business et de faire ce que tu as envie.
Et on pense à des grandes figures comme par exemple, j'imagine Oprah, qui aujourd'hui elle pourrait lancer un business dans le tricot, les gens achèteraient parce que c'est Oprah, ou même les membres de la famille Kardashian. Alors on aime ou on n'aime pas, mais quoi qu'elles lancent, ces femmes, ça suit, en fait. Et elles peuvent faire tous les secteurs et tous les domaines d'activité, ça suivra parce que c'est elles et c'est leur marque personnelle.
Exactement. Et en fait, dans le jargon des startups, on appelle ça « audience-based ». C'est en fait, au lieu de créer un produit et de le crash-tester tout de suite, et en général, ça se passe mal, surtout si tu as passé beaucoup trop de temps à le développer avant de le confronter, là, c'est d'abord, tu crées une audience et derrière, finalement, cette audience achètera de ta part ou si elle n'achète pas, sera prescripteur, donc te recommandera.
C'est parfait. Donc, la marque personnelle, c'est comment est-ce que je fais en sorte que ma personnalité, ma personne laisse une trace, donc laisse une marque auprès de mon audience, de mes prospects, de mes futurs clients, etc.
C'est très bien résumé. Aline, tu devrais faire du podcast. C'est top.
Je vais y songer. je suis en face d'une maître en la matière. Du coup, est-ce qu'on peut, pour quelqu'un qui commence du coup à appréhender le concept, à se dire « Ah bah oui, j'avais pas compris que c'était comme ça, etc. », décrire un petit peu les avantages et les inconvénients de construire sa marque personnelle, surtout aujourd'hui en 2024 ?
C'est une très bonne question. Les avantages, il y en a pléthore. Le premier, et celui qui aujourd'hui m'anime le plus, tu le sais, c'est le fait d'oser plus prendre la parole. Moi, j'ai toujours adoré les rapports à deux. J'ai toujours aimé être en one-to-one, comme on dit. J'ai toujours été, par contre, tétanisée par le groupe. Et du coup, dès que je devais prendre la parole en public, j'avais les mains moites, alors que j'ai toujours la peau hyper sèche, mais là, j'avais les mains moites, les jambes qui tremblaient, les guiboles comme ça, comme si j'avais une crise d'épilepsie. J'avais des réactions hyper ridicules. Sur scène, je me déplaçais un peu en moonwalk, comme ça, à la Michael Jackson, ou comme une marionnette démembrée. Et en fait, j'étais hyper cringe dès qu'il fallait faire des prises de parole en public. Et le fait de développer ma marque personnelle, bah, ça m'a permis de gagner en confiance. Et le vrai jeu aujourd'hui pour valoriser sa carrière et son expertise, c'est plus seulement le savoir-faire, c'est plutôt le faire savoir. Et c'est ça un peu la différence entre ceux qui grimpent et ceux qui stagnent. Et c'est parfois hyper injuste, mais c'est que si tu ne sais pas communiquer très pédagogiquement sur ce que tu fais et montrer en fait ton travail, et ben quelque part aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile d'être renommé, d'exister. Alors, il y a plein de contre-exemples, ça arrive, mais c'est deux fois plus long, deux fois plus difficile. Donc moi, le premier avantage pour moi de la marque personnelle, c'est le fait de gagner en confiance. Et le deuxième, c'est le fait de pouvoir en fait justement créer un business autour de toi au lieu de te créer autour d'un business. Et toutes les opportunités que ça comporte, c'est notamment la grande liberté de pouvoir changer d'avis, de pouvoir te reconvertir sans repartir à zéro. Toi et moi, on le sait, on a galéré pendant des années à se nourrir avec du riz, des pâtes pour lancer nos premiers projets. Et en fait, si tu as une marque personnelle, tu ne retombes jamais à la case départ. Tu n'es pas au sommet tout le temps. Hein. Tu vas sortir plein de trucs qui ne vont pas marcher dans ta vie et sinon, ce n'est pas intéressant si il n'y a que des succès. Mais tu retournes jamais à la case départ. Donc ça, c'est le deuxième avantage pour moi. C'est vraiment la liberté de pouvoir te réinventer, te renouveler. Et après, il y en a pléthore parce que tu vas te créer un réseau. Tu vas devenir aussi meilleur sur la façon de te vendre. Tu vas devenir un bon vendeur, un bon prospecteur malgré toi, puisque à force, tu vas améliorer ton message, à force de parler, à force de crash tester. Et pour finir, parce qu'il y a beaucoup d'avantages, évidemment, le CA, plus tu as une marque personnelle qui est forte, plus les gens vont t'acheter facilement et à prix élevé. Et en fait, l'avantage d'une marque personnelle, c'est que quand on collabore avec toi, il y a des garanties. Donc, les gens ont beaucoup moins peur de la personne sur qui ils tombent. Deuxièmement, tu peux leur apporter plein de choses. Tu peux leur apporter aussi ton audience. Tu vois, moi, aujourd'hui, quand je fais des conférences, bah, ce que je fais derrière aussi, c'est faire la promotion des événements. Et ça, c'est double effet qui se coule pour les gens qui font des événements avec moi. C'est que non seulement j'amène mon audience, donc j'amène la visibilité à l'événement. En plus, je produis du contenu avec eux sur place. Derrière, on le redistribue. Donc, en fait, tu deviens un peu un multi-partenaire et ça te permet de diversifier tes revenus en plus de les augmenter. Les désavantages, parce que tu vas me dire, mais Caro, alors là, c'est pas possible ce que tu me décris. Il y en a évidemment. Le premier désavantage de la marque personnelle, et je pense que toutes les deux, on en a fait les frais, et même bon nombre de créatrices qu'on a autour de nous en font les frais, c'est que quelque part, c'est des métiers qui sont très exigeants et qui laissent peu de place à la déconnexion. Hier, je déjeunais avec des youtubeurs. Il y en a un qui s'appelle Hugo Posé et l'autre qui s'appelle Fast Good Cuisine. Les deux, ils font plus d'un million de vues par vidéo, 5 millions d'abonnés sur YouTube. C'est des gros créateurs. Et en fait, je vais visiter leurs locaux et il y a 14 personnes qui bossent juste sur leur contenu et 2 personnes qui gèrent leurs réseaux sociaux. Et tu vois, je me suis dit, toi et moi, par exemple, on a très peu délégué cette partie-là. On a eu du mal à le faire parce que, en fait, moi, en tout cas, dans ma façon de gérer ma marque personnelle, je veux le plus possible créer mes contenus et répondre à mes messages, à mes commentaires. J'ai l'impression que c'est très féminin, d'ailleurs, petit aparté, mais c'est très féminin ce besoin comme ça de dire, en fait, je veux que si c'est moi, si c'est sur mes réseaux, bah, je fasse le maximum jusqu'à la limite pour pouvoir être présente. Et du coup, même en déléguant, bah, on se retrouve toutes les deux à être quand même dans le jeu de la marque personnelle, end zone, et parfois, du coup, à avoir des chutes de morale, des baisses de productivité et aussi baisses de productivité et défocus. C'est-à-dire qu'on le sait, le jeu des notifications, ça va à droite, à gauche. Même notre famille a besoin de nous. Même nos amis nous demandent des conseils pro. Et en fait, la frontière vie privée, vie publique est parfois hyper difficile à maintenir. Je sais pas ce que t'en penses.
Je me retrouve à 200% dans ce que tu dis. Je rajouterais même tout le côté. C'est très, très chronophage de créer du contenu parce que la marque personnelle passe par la création de contenu. Et surtout, bah, c'est un travail qui ne finit jamais, en fait, parce qu'il faut toujours créer du contenu. Alors, quel que soit le rythme qu'on a décidé d'adopter, mais en termes parfois, quand tu as des baisses de créativité ou même parfois de santé mentale, je trouve que c'est très facile d'aller jouer avec les frontières, avec les codes et de parfois même pas se rendre compte qu'on est en train de poser l'orteil gauche sur la limite, etc. Et je vois des personnes hein, qui flirtent avec le burn-out quotidiennement ou même qui sont largement passées de l'autre côté. Donc, c'est vrai que ça en fait partie. Un autre inconvénient que je verrais potentiellement à la marque personnelle, dont on parle beaucoup parce que c'est un peu le cas d'école, c'est si un jour on veut revendre notre boîte, quand c'est une boîte qui dépend de notre image de marque et que les gens achètent parce que c'est nous plus que pour le produit, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire baisser la valeur d'une entreprise. Et je sais que j'en ai même vécu l'expérience très concrète et chiffrée quand j'ai dû faire valoriser The BeBoost il y a quelques mois dans le cadre du rachat de Postadem pour monter la société, la holding, etc. Il y a 200 000 euros qui sont passés à la trappe parce que c'était ce qui était perçu comme étant le risque personal branding, etc. quoi. Donc, mon personal branding coûte 200 000 balles à ma boîte. Voilà.
C'est vrai. Et ça, c'est, tu vois, pour moi, c'est plus un des avantages d'une boîte qui repose sur le personal branding d'un dirigeant, donc founder-led growth, comme on dit. Donc, la croissance est assurée par la fondatrice. Mais ce n'est pas tellement un des avantages de la marque personnelle, parce que ça veut aussi dire, Aline, qu'à chaque fois que tu touches une boîte, tu rapportes 200 000 balles de valorisation.
Exactement.
Tu vois
ça,
ce que je veux dire.
Base communicant.
Mais il y a un vrai gros désavantage aussi, c'est, tu sais, le bad buzz. Le jour où il y a une rumeur ou un truc qui tourne au vinaigre sur un dirigeant d'entreprise, bah là, en fait, tout d'un coup, tu vois, et j'en vois beaucoup des dirigeants d'entreprise qui, en plus, pourraient calmer la crise très facilement en disant « désolé » et qui, au lieu de ça, vont s'enfermer dans le silence ou vont camper sur leur position. Et je pense qu'il y a des marques qu'on ne citera pas parce que ça ne sert à rien de faire du finger pointing, mais que peut-être vous avez tous en tête en écoutant le podcast. Il y a des marques qui ont eu des bad buzz sur des sujets moraux, sur des sujets de racisme, de discrimination, de mauvaise inclusion des équipes, de harcèlement moral parfois, et qui, au lieu de dire désolé, au lieu de prendre la parole sur le sujet, bah, se sont juste emmurés en fait dans leurs défauts. Donc ça, c'est vrai qu'en termes de culture d'entreprise, on a vu souvent, tu vois, des exemples de personal branding qui n'étaient pas cohérents. Mais voilà, pour moi, le principal piège, c'est difficulté à déléguer, difficulté à, quand tu es une marque personnelle, à sortir en fait de la déconnexion, à sortir justement des réseaux sociaux. Et troisième chose aussi qu'il faut dire, mais ça concernera plus les gros créateurs, mais cette sensation parfois que tu appartiens à tout le monde et qui est difficile à gérer pour des personnes comme nous, notamment qui ont une forte sensibilité. En fait, voilà, ça arrive que des personnes viennent nous voir et nous demandent des conseils, des services en pleine, enfin, à la sortie d'une conférence, dans un moment où on marche dans la rue pour retrouver une amie. Et en fait, ce sentiment parfois un peu désagréable que les gens ont l'impression que tu leur dois quelque chose. Et moi, ça m'est arrivé du coup pas mal de fois de souffrir de ça, de me dire, en fait, les gens ont tellement d'attentes et ont tellement l'impression de nous connaître que derrière, ils ont des comportements qui sont pas adaptés et des attentes auxquelles on peut pas répondre. Moi, beaucoup de personnes sur LinkedIn me demande mon numéro de téléphone pour m'appeler. Non, en fait, je ne peux pas donner mon numéro personnel à quelqu'un que je ne connais pas. Et je sens que parfois, il y a une déconnexion que tu as peut-être ressentie sur Insta. Ça t'arrive aussi parfois?
J'ai énormément de personnes qui me disent « Ah bah, j'ai vu que tu étais à Nice maintenant, je suis de passage, est-ce que tu as 15 minutes pour un café ?» Mais ça, c'est des dizaines de fois par semaine. Mm. Et en fait, non, je dis non à tout le monde parce que, bah, parce que je ne peux
parce
pas dire oui à
gérable.
Tout le monde. Et puis, c'est du temps. Et puis, ce n'est pas que je n'aime pas la personne et que je n'ai pas envie de la connaître. Et je suis sûre que c'est des gens qui sont merveilleux. Mais en fait, on est tellement sursollicité que quand on n'est plus derrière notre micro ou notre caméra à créer du contenu, on a aussi une vie perso, besoin d'être dans notre bulle. Et voilà. Mais en même temps, je me dis, ça fait partie du revers de la médaille de ce qu'on a choisi en termes de business model et on ne peut pas en vouloir à ces gens-là, tu vois. Parce que ça fait partie du game. Donc, j'essaie de toujours le faire avec beaucoup de bienveillance et de toujours expliquer aussi ma réponse. Mais c'est vrai que des fois, c'est assez perturbant de voir ça passer dans la vraie vie, quoi.
T'as raison de le dire. C'est franchement les désavantages de la marque personnelle, c'est un peu des problèmes de riches. C'est comment gérer trop de demandes. C'est pour ça que voilà, faut
comment gérer la célébrité.
Voilà, la célébrité, et c'est pire parce que c'est pas un niveau de célébrité qui justement fait que les personnes se privent. C'est un niveau d'accessibilité au contraire, et c'est ça la marque personnelle. C'est tu rayonnes dans ta niche, dans ton secteur, les gens se sentent proches de toi. Du coup, voilà, il y a un effet retors, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est très vrai et humble ce que tu dis. Il faut pas trop se plaindre parce qu'effectivement, là, voilà, ce qu'on vous partage, c'est quand vous allez avoir réussi à faire une marque personnelle assez forte pour avoir beaucoup trop de demandes, ça vous créera d'autres problèmes. Mais d'ici là, ne vous inquiétez pas, il y a vraiment, vraiment que des avantages. En tout cas, pour moi, j'ai jamais souffert de la marque personnelle.
Oui, et puis comme tu dis, c'est des problèmes de riches et on relativise. Et il y a un côté qui est toujours très flatteur quand, par exemple, tu es reconnu dans la rue ou que quelqu'un t'écrit en te disant à quel point tel contenu a changé sa vie ou ça a provoqué des déclics. Enfin, c'est beau. Et moi, je dis merci pour ça à chaque fois, quoi.
C'est clair, je suis d'accord. Je trouve que c'est notre meilleur KPI. C'est, tu sais, quand la meilleure rétribution, c'est vraiment quand les gens nous écrivent et sentir qu'on a de l'impact. Tu sais, à la sortie d'une conférence, quand quelqu'un dit, tu vois, et je sais que ça t'est arrivé avec Je peux pas, j'ai business, c'est les gens qui ont lancé des boîtes avec ton podcast.
Oui.
Tu vois, qui se sont dit, en fait, j'avais la trouille de me lancer et j'ai écouté ton podcast. Et en fait, ça m'a décomplexé. Tu crées des déclics, tu crées des vocations. Enfin, on change des vies. Et ça, franchement, c'est un truc de ma boule. Je suis d'accord avec toi. C'est, en tout cas, moi, c'est ma raison d'être. C'est cette reconnaissance.
On est d'accord. Un dernier sujet que j'aimerais traiter avec toi, un petit peu plus méta aussi, avant de rentrer dans le comment est-ce qu'on construit une marque personnelle qui nous permet d'être reconnus dans la rue, de rayonner, de changer des vies, parce que c'est ce qu'on est en train de vendre aussi. La dernière question, c'est, il y a beaucoup de personnes autour de moi qui pensent que marque personnelle égale s'inventer un personnage. C'est pas fake, mais c'est un peu la limite de je m'invente une vie ou je m'invente une facette. Et j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Sachant que ma perception, c'est qu'on n'est jamais 100% nous-mêmes en ligne. Parce qu'on va toujours présenter une certaine facette de nous. On va dissimuler d'autres facettes, soit parce qu'on en est moins fier, qu'on a moins envie de les montrer, soit par pudeur aussi. Moi, je sais qu'il y a plein de trucs que par pudeur, je ne dévoile pas sur les réseaux sociaux. Est-ce que construire une marque personnelle, c'est construire un personnage ?
C'est une super bonne question. Moi, je me sens jamais comme un personnage. Et d'ailleurs, je trouve ça rigolo parce que beaucoup de gens sont étonnés quand ils me rencontrent et me disent « Tu es pareil que dans tes lives ». Et en fait, j'ai jamais compris ce truc-là, mais je pense que c'est aussi lié au fait que je suis hyper active, j'ai les défauts de mes qualités, je suis tellement impulsive et spontanée. Il y a plein de défauts à ça. Hein. Pour ceux qui le sont, on les connaît tous. Regretter d'avoir dit un truc trop vite, pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai parlé, pourquoi je me la suis pas fermée sur ce sujet. Et à contrario, bah, l'avantage de ça, c'est que c'est vrai qu'on n'est pas des calculateurs, nous. Les impulsifs, on est hyper spontanés, on est complètement sous le joug de nos émotions et ça a aussi des qualités. Et moi, je sais que souvent, voilà, on m'a dit que j'étais authentique et ça m'a fait très plaisir. Et en même temps, je vais te dire, c'est pas du tout un effort. Donc, moi, je sais que j'ai toujours été nature peinture. Il y a pas longtemps, avec mon associé, il me dit, ah, t'as mis du vernis orange, c'est rigolo. Du coup, j'ai voulu lui montrer que j'avais mis le même sur les pieds. Du coup, je me suis mis pieds nus et j'ai enlevé mes chaussures à la conférence pour lui montrer. Et il m'a dit, mais Caro, personne fait ça. T'es hyper bizarre, t'es hyper cringe. Mais ça va avec le fait que moi, j'ai toujours été comme ça. J'ai grandi aussi dans une famille comme ça, à la bonne franquette où il n'y avait pas trop de filtres et tu es toi-même. Et on m'a donné, je pense, l'autorisation quand j'étais enfant. Donc, ça me paraît très naturel. On m'a posé une question hyper intéressante. Il y a quelques jours, j'ai un ami qui m'a invité à déjeuner, un ami de New York. Il m'a dit, Caro, je voulais te poser une question. Je voudrais faire du contenu politique, mais je ne me sens pas de m'afficher sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut créer une marque personnelle en étant anonyme ? Et justement, je lui ai dit, tu as un peu trois façons d'être anonyme sur les réseaux en créant une marque personnelle.
J'adore cette question.
Ouais, j'ai trouvé ça hyper intéressant et surtout sur des contenus qui, voilà, nous, on n'est pas sur des contenus clivants. On fait toujours beaucoup de bien aux gens. C'est très rare qu'on blesse les gens avec des contenus business. Mais tu vois, politique, religion, il y a plein de sujets qu'on a parfois à la table de Noël et sur lesquels même des gens qui s'aiment peuvent beaucoup se disputer. Donc lui, en fait, me pose cette question et aujourd'hui, tu as différentes façons de faire. Tu as la première solution, c'est de ne pas montrer ta tête, donc de montrer seulement ta voix. Tu peux faire, par exemple, des point of view. Et du coup, en fait, que les gens ne voient jamais ta tête, avoir juste une voix qui les accompagne. Et puis, tu peux aussi faire du contenu de synthèse, donc avec un avatar IA, avec une fausse voix IA. C'est toujours un peu bizarre, c'est plus difficile, je pense, de réussir avec un avatar. Mais vous savez, les faux influenceurs qui sont des avatars IA sont en train de débarquer très, très fort sur les réseaux sociaux. Souvenez-vous, malheureusement, que tout ce qui arrive en Chine finit par arriver chez nous. Donc, c'est que dans quelques années, on va les avoir aussi. C'était pas que pour la Covid. Et troisième chose, se créer un personnage. Et je lui ai dit, en fait, tu peux aussi être un Daft Punk. Donc, une marque personnelle, oui, ça peut être un personnage. Et surtout, si vous êtes sur des thématiques un petit peu sensibles qui pourraient vous attirer des ennemis, tout simplement. Donc, dans ces cas-là, je préconise d'être un personnage. Peut-être pas à tel point que tu te déguises, mais pourquoi pas sur du contenu, par exemple, historique, tout ça. Tu peux jouer le jeu de bâtir un personnage ou en tout cas, voilà, être un Daft Punk à fond. Aline, je pense que c'est possible. Mais moi, ce n'est pas ma vision de la marque personnelle. En tout cas, je me sens très peu comme un personnage, mais c'est perso.
C'est hyper intéressant d'avoir ton feedback. J'ai la sensation, moi, d'avoir un personnage qui est une partie exacerbée de ma personnalité. Donc, c'est vraiment moi. Mais ce personnage existe aussi dans la vraie vie. C'est-à-dire que tu me vois dans un cadre professionnel, c'est-à-dire en networking, en séminaire, etc. Tu auras la même que sur les réseaux sociaux. Tu auras la même qu'au podcast ou dans les vidéos, etc. Tu me prends, par contre, chez moi toute seule le soir. Et ben, je suis en mode introverti. Je suis en mode laissez-moi dans ma bulle. Et j'ai besoin de parler à personne. Et je suis beaucoup plus calme, cadrée et posée que la nana rigolote qui parle très vite, même un peu trop parfois, et qui dit des bêtises sur son podcast, tu vois. Et ça veut pas dire que c'est pas moi, mais il y a toute une facette de ma personnalité que les gens ne connaissent pas, en fait, parce que c'est pas la facette publique aussi de The Beboost.
Je vois très bien, et tu sais, ça pour moi, Aline, c'est un nom, c'est le syndrome de la bonne élève. C'est que toute la journée, tu surcompenses et en fait, tu réponds aux attentes des autres, tu réponds aux exigences et du coup, tu t'es créé ton surmoi ou ton social super-ego qui répond à ta place. Et tu vois, un exemple tout bête, Nina Ramen, qui est une bonne copine qu'on a en commun, elle me racontait un truc que j'ai trouvé trop rigolo. Elle me dit, les enfants, quand t'es maman, il y a un truc qui est hyper énervant, c'est que tes enfants, quand ils sont chez les grands-parents, ils sont adorables. Et du coup, les grands-parents, ils sont là, mais je comprends pas pourquoi t'as dit qu'il était terrible, il est trop top, il n'a pas bougé, sage comme une image. Et Nina, elle me dit, dès que je récupère mon fils, il recommence à faire des dingueries, il monte sur les meubles, il pousse des cris d'animaux. Et elle me dit, en fait, ça me rend folle, pourquoi il fait ça ? Elle est allée voir une psychologue ou une pédopsie et elle m'a donné cet insight que j'ai trouvé hyper intéressant et je trouve que ça s'applique tellement aux adultes. Oui. Elle me dit, en fait, l'enfant, quand il est face à des inconnus, donc ses grands-parents, il surcompense. Et du coup, comme il n'est pas à l'aise, comme il n'est pas dans son environnement naturel, eh ben, il répond à 100% aux attentes, il se met une pression dingue et du coup, il ne bouge pas. Sauf que ça, ce n'est pas bon pour l'enfant et que quand l'enfant retrouve son parent, sa zone de confort qui est peut-être pour toi le cadre de ton appartement, eh ben, il redevient vraiment lui-même et il décompresse. Et tu vois, c'est un peu ce truc de deux attitudes. Pour ça que je te parle de syndrome de bon élève. En tout cas, pour moi, ça me fait plus penser à ça qu'à un personnage.
Ça me parle à 200%. Tu l'as, toi, ou pas du tout ? Tu arrives vraiment à être la même dans tous les cadres ?
Je me reconnais beaucoup quand tu as cette phase de décompression après les gros événements. Moi, si je fais un tournage aussi, parce que je suis hypersensible au niveau des yeux notamment, donc en fait, quand je reçois de la lumière, je dois passer le même temps dans le noir. Ça fait un peu dépressif de vous dire ça, parce que du coup, c'est une drôle de vie. Mais à chaque fois que je vais passer une journée en tournage avec des gros spots sur la tête, le lendemain, je ne peux pratiquement plus bouger. Et c'est vraiment des symptômes physiques. Voilà, le stress est redescendu et souvent, on me dit « Ah, Caro, t'es tout le temps à 100 à l'heure », parce qu'en fait, le moment où je suis pas à 100 à l'heure, je le documente pas et du coup les gens ont l'impression qu'il n'existe pas.
C'est pas
t'es
ouais, pas ouais. Toujours à 70, c'était à zéro quoi.
Ouais, j'ai beaucoup de moments où j'annule mes journées, tu sais, tout d'un coup. Et d'ailleurs, ce podcast, on a dû le décommander deux fois parce que tu vois, notamment ce matin, on devait le faire et je t'ai dit, Aline, je le sens pas, je me connais, si je vais en soirée, tout ça, je sais que je vais pas être capable de me lever. Et du coup, voilà, j'ai réussi à faire un rythme qui s'adapte où je peux produire. Mais voilà, faut pas croire ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, les super-héros, ça n'existe que dans les livres.
Et que même les super-héros sur les réseaux sociaux ont des périodes de décompression derrière qu'ils ne documentent pas et qu'ils ne montrent pas par définition, quoi.
Ouais, et on a raison de faire ça, Aline, parce que je trouve qu'il y a une tendance sur les réseaux sociaux, je sais pas si tu la vois arriver particulièrement sur Instagram, au catastrophisme. Tu vois, il y a plein d'influenceurs qui disent ils sont tout le temps malades, c'est plus belle la vie. Tu sais, je me dis, en fait, ça, c'est vraiment, tu vois, dans ta question sur les personnages, c'est assez rigolo parce que il y a pas longtemps, j'ai vu une story d'une nana qui disait j'ai 42 fièvres, j'ai passé la nuit debout, une nuit en enfer et tout ça, et on devait se voir le lendemain. Et du coup, je lui dis, mais tu sais, j'ai vu tes stories, ne te mets pas la pression, décalons le rendez-vous, je veux surtout pas que tu viennes dans cet état-là et tout. Et en fait, la nana s'est un peu vexée. Et j'ai pas trop compris et j'en ai parlé, comme je suis awkward socialement, parfois je ne sais pas comprendre les signaux. Donc j'en ai parlé à une amie créatrice et je lui ai dit, écoute, j'ai voulu être sympa, je comprends pas la réponse. Et tu sais ce qu'elle m'a sorti ?
Je sens venir le truc, mais vas-y, stitch incoming.
Tu sais. Ben, c'est une copine qui est très instagrammeuse aussi. Elle me dit, Caro, c'est simple. C'est pas qu'elle a pris la mouche à cause de ta question, c'est qu'en fait, elle a raconté ça juste pour les réseaux sociaux. Et quand elle a vu que tu voulais décaler le rendez-vous, elle s'est dit « Ah bah mince, non, en fait, je suis pas malade. » Et elle me dit, elle a eu une réaction. Et en fait, j'ai trouvé ça, mais tellement, j'aurais jamais pensé que... Là, et du coup, en plus, je te confirme que du coup, j'ai vu la personne après et elle n'était pas malade. Mais en fait, mon amie m'a dit « Mais Caro, tu débarques, bienvenue sur Instagram, le monde où il faut toujours, comme dans Plus belle la vie, qu'il y ait quelqu'un qui soit mort, qu'il y ait quelqu'un qui soit malade, machin. » Et c'est vrai que le pathos attire les vues sur les stories. J'ai une de mes amies, Mariam Gaderi, qui me disait « Caro, dès que je dis que je suis malade en story, les gens adorent, c'est mes stories les plus vues, elle fait le double de vues quand elle est malade. »
Les rares fois où j'ai partagé des choses négatives, en fait c'est marrant, on a vraiment ce parcours du héros, on aime voir les gens réussir, mais au bout d'un moment on aime bien les voir retomber, tu vois, pareil, j'en parlais aussi avec Nina il n'y a pas longtemps, c'est que les gens adorent te voir partir de rien et réussir, mais sauf que quand t'as réussi et que t'es au sommet depuis trop longtemps, ils attendent qu'une chose, c'est te voir chuter, pas par malveillance, mais juste parce que ça fait partie de « ok, on veut le rebondissement, on veut te voir chuter, on veut te voir galérer, comme ça on s'identifie un peu à toi
le
quand même. »
Le struggle. Ouais.
Voilà, exactement. Puis après, on veut te voir remonter et on sera là pour t'encourager. Et en fait, les gens ont besoin d'entertainment, ils ont besoin d'être divertis, ils ont besoin d'être là avec leur popcorn. Ça, c'est un côté très...
Gladiateur.
Ouais, c'est ça, tu vois. Donc, c'est marrant d'observer ça sur les réseaux. Mais du coup, ça me fait penser un petit peu à ça, où on aime bien voir les gens qui nous inspirent souffrir parce que du coup, ça les rend plus humains. Et puis, ça crée un petit peu du commérage, quoi. C'est un peu très voyeuriste. Hein.
Bah, en tout cas, voilà, sur le personnage, c'est rigolo parce que ça reboucle finalement assez bien avec ta question. T'as raison. Et du coup, il y a des gens qui se créent voilà, des personnages. Mais ça, je trouve que tu vois, à force, pour moi, ça va lasser. En tout cas, les personnes qui font ça ne sont pas des méga brands. Quand je suis, moi, les gens que j'admire, des Alex Hormozzi et tout, je sens qu'ils ne sont pas dans ce jeu de je m'invente tout le temps une vie. Donc, j'ai l'impression que ça, c'est plutôt un réflexe de j'ai pas d'autre chose à raconter, tu vois, finalement, que tout le temps m'inventer des péripéties.
Oui, exactement. Alex Hormozzi, il ne pose pas des stories, il pose dire j'ai 42 chèvres.
Ou à l'hôpital comme ça, j'ai encore fait un burn-out. Mais voilà, il y a quelqu'un qui singeait sur LinkedIn, qui faisait un contenu trop rigolo, qui singeait sur LinkedIn justement. Le créateur qui dit hey, j'ai gagné 100 000 euros par mois, oh, mais j'ai fait un burn-out, c'est dur, mais regardez, je lance mon nouveau truc. Et c'est vrai que je pense que ça va lasser sur le long terme. Ce n'est pas un bon moyen de faire de la croissance et de créer une communauté.
Mais du coup, on est d'accord que la marque personnelle, ce n'est pas ça. Parce que là, on est en train de partir dans les délires où les gens vont se dire « Mais en fait, ça a l'air d'être un enfer, leur truc. »
Non, je pense que la marque personnelle, justement, oui. C'est pas se créer un personnage et c'est pas s'inventer une vie. La marque personnelle, c'est justement construire un business autour de vous, votre personnalité, vos envies, vos forces. Et du coup, voilà, le premier truc, c'est au lieu de se préoccuper de ce que vous avez à poster sur les réseaux sociaux, posez-vous la question de ce que vous pouvez apporter de plus valorisable pour votre audience. Par exemple, Aline, elle a une reconversion. De base, coup du sort, elle s'est auto-formée et elle s'est rendue compte en fait de la voie royale qu'il y avait à communiquer, à construire son média aussi. Et ça, tu vois, tu l'as documenté et tu t'es dit, je vais le faire croquer aux autres. Et c'est ça qu'on suit dans ton aventure. On ne suit pas ton état de santé, on ne suit pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie familiale ou ta vie amoureuse. Nous, ce qu'on a envie de savoir, c'est ton épopée d'entrepreneur pour se dire, aujourd'hui, les rôles modèles d'aujourd'hui, c'est justement ceux qui ont galéré hier. Donc, c'est peut-être le futur moi. Donc, quand on regarde le futur nous. En tout cas, moi, ça, j'y crois.
J'adore et c'est très bien résumé. Du coup, est-ce qu'on peut passer sur le comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on construit sa marque personnelle? Parce que c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, en fait. C'est pas réservé aux influenceurs, c'est pas réservé aux extravertis. Chacun peut le faire. Ce serait quoi pour toi la première étape de quelqu'un qui voudrait se dire « Ouais, moi, ça me parle comme stratégie, je vais mettre ça en place dans mon business ».
Alors, pour moi, la première étape, c'est d'identifier sa niche, c'est-à-dire sa spécialité. Dans quel territoire est-ce que vous avez le plus de compétences, le plus de valeur ajoutée? Et je te donne un gros exemple, Aline, de le piège de la marque personnelle. C'est que souvent, on voit les marques personnelles qui cartonnent et on essaye d'imiter leur stratégie, sauf que vous n'êtes pas au même niveau. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, quand on regarde les nanas comme Oprah Winfrey, on se dit, en fait, elles peuvent se permettre de partager leur vie, leur famille, leurs rencontres, leurs actions de mécénat, et on pourrait être tenté de faire pareil. Sauf que ça, c'est une bonne stratégie quand on a déjà réussi, quand on a un niveau d'attachement extrême. Quand on commence sa marque personnelle, plus on est niché, mieux c'est. Moi, quand j'ai commencé, je n'ai pas parlé d'entrepreneuriat, je n'ai pas parlé de futur du travail, je n'ai pas parlé de tech. J'ai commencé par parler de partenariat. Après, j'ai parlé de growth marketing. Après, j'ai parlé de marketing. Après, j'ai parlé d'entrepreneuriat. Et maintenant, je parle beaucoup de futur du travail. Mais j'ai grandi avec mes audiences et avec les attentes de mes audiences. Si tu m'avais vu recommander des compléments alimentaires quand je me suis lancée, tu ne m'aurais jamais suivie. Parce qu'en fait, d'abord, il faut que les gens se reconnaissent en toi. Plus ton message est précis, plus ton audience elle est nichée, plus tu vas grimper vite. Comme dans l'entrepreneuriat, si tu essayes de vendre à tout le monde, tu vas parler à personne.
Et surtout, tu vas être en concurrence avec tellement de monde qui est là depuis longtemps et qui fait des choses déjà de manière beaucoup plus avancée. Donc, très, très bon conseil. Et j'aime le fait que tu l'illustres justement avec ta progression personnelle, de dire on grandit en même temps. Et notre niche s'élargit en même temps que nous et en même temps que notre audience.
C'est exactement, tu l'as dit, le fait de devenir encore une fois remarquable, être le premier CV sur la pile, c'est en fait, au lieu de vous battre dans une catégorie où il y a déjà 10 000 personnes, soyez le premier de votre catégorie de une personne. Et en fait, plus vous allez vous spécialiser, plus vous allez devenir remarquable. Et ça va aussi avec la partie déclencher des relations presse. Avoir des gens qui se disent, sur ce sujet, c'est elle. Et en fait, vous allez construire petit à petit votre audience, mais encore une fois, une chose à la fois. Et si vous commencez à parler de tout, on va se reconnaître dans rien. Donc, pour trouver sa niche et pour affiner un peu son positionnement, moi, j'aime bien donner ces petites techniques. La première, c'est que la clé d'un bon positionnement, c'est seulement deux cases. La première, c'est une verticale, plusieurs services. Vous êtes sur un seul domaine, mais derrière, vous proposez plusieurs services. Encore une fois, le mieux, c'est un à la fois. Par exemple, on a l'exemple de Safia. Safia Gourari, c'est la queen du podcast. Aujourd'hui, Safia, elle fait du podcast, sa verticale, mais sous la forme d'un multiservice. Elle fait à la fois, par exemple, de l'accompagnement one-to-one, à la fois, elle a sa formation vidéo et elle a aussi son excellent livre qui parle de comment lancer un podcast. Donc ici, tu vois, c'est une verticale et plusieurs services. Il y a un deuxième cas de figure, c'est un seul service et plusieurs verticales. Et pour ce cas-là, on va imaginer un cas fictif, que tu sortes un bootcamp « Je peux pas, j'ai média », Ça, c'est mon rêve secret. Où, en fait, tu expliques aux gens comment arriver sur un média et créer un média autour de soi. Et tu pourrais, du coup, avoir ce bootcamp, donc ce service unique, à destination de plusieurs verticales. YouTube, je peux pas, j'ai YouTube. Je peux pas, j'ai Facebook. Je peux pas, j'ai Instagram. Et bientôt, je peux pas, j'ai LinkedIn, n'est-ce pas, Aline ?
Je suis sur LinkedIn. J'y suis plus, mais j'y étais.
Je sais. Et en plus, ça a marché. C'est ça le pire.
Mais oui, ça fonctionne.
Mais bon, en tout cas, j'ai vu que ça marchait dès que tu y allais. Et donc, c'est un très bon signal, mais je ne reviendrai pas là-dessus. Je sais qu'un jour, je l'aurai.
Franchement, c'est prévu. C'était juste une question de priorité.
La deuxième astuce, du coup, une fois que vous avez compris qu'un bon positionnement, c'est rentrer dans une de ces deux cases et que vous avez compris que vous n'êtes pas obligé de faire toujours la même chose. Mais par contre, il faut quand même amener un peu de structure. Et ben, ensuite, pour éviter d'adresser tout le monde et donc personne à la fois, l'idée c'est de resserrer en se posant des questions sur sa cible. Par exemple, ses produits s'adressent aux gens qui sont et on essaye de trouver un maximum de qualificatifs. Un exemple tout bête, et j'en ai beaucoup dans ma hotline sur le positionnement, ce sont ces coachs qui du coup permettent aux entrepreneurs de décupler leur performance. Ça, je n'en veux plus. Ça ne fonctionne pas comme positionnement d'adresser tout le monde avec une offre générique. Donc, quand vous êtes business coach à destination des entrepreneurs, ça ne s'appelle pas une niche. Ça s'appelle la stratégie taboulée. Il y a un petit peu de tout et au final, bah, on est toujours un peu emmerdé parce qu'on ne sait pas trop.
J'adore la stratégie taboulée.
Non, mais c'est vraiment, en général, et quand je lis les headlines sur LinkedIn, là, je vois du vrai taboulé. On a du rédaction SEO, accompagnement web design. En gros, voilà, il y a un petit peu de tout. Et ça, même pour vous, c'est terrible parce que autant vous allez pouvoir, en vous nichant, vendre de plus en plus cher très facilement parce que vous améliorez vos process, vous pouvez déléguer, vous devenez excellent, vous faites grimper votre preuve sociale, autant si vous faites un petit peu de tout, vous allez vraiment vous plomber votre productivité et également votre rentabilité. Donc, trouvez un maximum de qualificatifs sur votre cible. Je vous donne un exemple, bah, le business coach d'hier, on s'est rendu compte qu'en fait, ce qu'il faisait très bien, c'était du coaching pour neuro-atypiques. Et donc, on a travaillé, retravaillé toute sa gamme à partir d'un nouveau positionnement qui va faire qu'au lieu d'aller chercher bah, des coachings à prix cassé en faisant du sur-mesure à chaque fois et en étant déprimé par son activité, eh ben, on va se spécialiser dans une seule chose et on va marteler le même message partout. Évidemment, la dernière technique que je vous donnerai et qui pour moi est vraiment importante sur la structuration de l'offre, c'est de toujours vous poser la question, et ça, c'est vraiment Alex Hormozi qui l'a beaucoup évangélisé sur les réseaux, vous poser la question de qui est prêt à payer le plus cher pour résoudre cette douleur ou alors qui a le retour sur investissement le plus fort. Parce que parfois, vous avez un vrai service, une vraie valeur ajoutée et le problème, c'est que vous vous adressez à une cible qui n'a pas d'argent à dépenser sur cette problématique-là. Par exemple, je veux vendre de l'optimisation de profil LinkedIn à des étudiants ou à des chercheurs d'emploi. Ça ne marche pas. Donc voilà, parfois, on a tendance à dévaloriser son service alors qu'on l'a juste mis en face de la mauvaise personne, quelqu'un qui ne le valorise pas suffisamment.
Alors là, la question que tous les auditeurs sont en train de se poser, parce que je les connais par cœur, c'est comment est-ce que je peux m'assurer que les gens, ils sont OK de dépenser de l'argent pour les services que j'ai envie de lancer ?
Eh bien, le mieux, c'est justement de créer une communauté avant d'avoir quelque chose à vendre, de commencer à sonder les personnes. Et moi, il y a une technique que j'adore aussi, qui est très clivante. Moi, je fais l'apologie du gratuit. Je commence toujours par faire les choses gratuitement avant de les pricer. C'est très clivant et je me suis beaucoup fait taper dessus sur les réseaux pour dire ça. Mais honnêtement, moi, j'ai toujours commencé comme ça. Et même aujourd'hui, quand on lance des nouvelles offres, je fais toujours gratuitement mon use case. Je décide avec qui je le fais, mais c'est toujours gratuit de dire « Ok, j'ai envie de lancer un pilote sur ce sujet. On le fait ensemble. Je te le fais gratos. Derrière, tu le documentes, tu me recommandes. » Et puis, j'ai gagné tellement de temps au lieu d'essayer de vendre un truc sur lequel je n'ai pas d'exemple. Donc, pour moi, le vrai gros hack pour aller chercher vos premiers clients, c'est de déterminer pour qui est-ce que vous rêvez de travailler. Imaginons que vous n'ayez aucune idée d'un service en particulier à lancer. C'est le conseil que je donne particulièrement aux étudiants. C'est OK. Avec qui, par contre, c'est quoi ta dream boîte ? Qu'est-ce qui te fait rêver en termes de culture d'entreprise ? On a forcément, si ce n'est pas un job en tête, on a forcément une boîte pour laquelle on rêve de bosser parce que sa culture, elle nous appelle. Eh bien, va voir cette boîte et dis-leur comment je peux vous aider. Et tu te formes avec eux. Je te donne un exemple. Quand j'ai lancé Emma et Chloé aux US, on a une première nana qui nous a accompagnés, qui rêvait de bosser dans la boîte. Elle nous a dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» On a dit « On a un seul besoin en ce moment, c'est les ads. » Elle s'est formée avec nous. Du coup, elle est venue en stage chez nous. Elle a tout appris au monde de la publicité. Nous, elle était hyper contente parce qu'on lui filait un budget pour s'exercer au lieu de payer une école, un machin. Et en fait, c'est devenu un monstre. Et au final, on l'a recrutée. C'est la même histoire pour Amandine Barthes, qui est une super marque personnelle et d'ailleurs une super nana qui fait du SEO. Elle elle te racontera la même histoire sur Wallaxy, son employeur. Bah, en fait, elle s'est dit « Ok, j'ai envie de bosser dans cette boîte ». Elle a commencé à faire ses armes sur le SEO en n'étant pas formée sur le sujet. Et en fait, elle a grandi. Donc ça, c'est un exemple en entreprise. Mais pour moi, vous pouvez faire ça avec des produits, des services. Et en fait, grandissez, apprenez avec vos clients. Là, sur une de mes boîtes dans le SaaS, la solution logicielle, en fait, on s'est dit « Ok, on veut bosser avec eux ». De quoi vous avez besoin? Ok, vous voulez trouver des clients, vous avez un problème d'enrichissement de données, on monte l'offre avec vous. Et du coup, ça aux États-Unis, c'est déjà hyper courant et ça marche hyper bien. Faites-le dans le service, soyez les premiers.
C'est magnifique, j'adore. Pépite, ce que tu nous partages. Donc ça, c'était notre première étape pour monter sa marque personnelle, trouver sa niche. Ensuite, étape numéro 2, moi je prends des notes.
Alors, étape numéro 2, identifier ses forces. Et en général, là, on ne vous demande pas d'avoir le melon ou d'être hyper mégalo et de dire « je suis ». Demandez à vos potes. N'hésitez jamais à faire travailler les autres. Demandez à vos potes, alors pas à votre mère, hein. Demandez plutôt à vos potes, à vos anciens collègues. Pour toi, c'est quoi qui fait que je suis distinctif là-dessus? Pour toi, qu'est-ce que j'ai à apporter en particulier dans tel domaine ou pour telle boîte? Les gens vont vous dire mieux que vous quel est votre why. Et tu vois, souvent, Aline, Nina, par exemple, elle m'a beaucoup aidée en me disant « Mais tu sais, Caro, quand t'es sur scène, il se passe un truc. C'est vraiment ton truc. T'es distinctive là-dessus. » Et tu vois, parfois, quand c'est un truc qui te plaît, t'oses pas en rêver. Et tu dis « Ah, bah, finalement, c'est banal. » Et le propre du talent, c'est qu'on n'arrive jamais à se rendre compte du talent qu'on a parce que pour nous, c'est naturel. C'est le fameux truc inné. On a tous ce truc-là. Tu sais, on a tous cet ami qui est hyper magnétique, qui s'en rend pas compte, mais qui est ami avec tout le monde. Ou ce mec, par exemple, qui a une logique imparable. Toi, Aline, par exemple, tu sais super bien t'approprier les messages et récapituler. Tu vois, tout à l'heure, en une seconde, tu m'as résumé une phrase avec un mot hyper simple, avec une punchline. Donc, en fait, on a tous un truc qui, pour nous, nous paraît évident. C'est ça le propre du talent. Donc, demandez à vos amis de vous donner, de vous attribuer, du coup, 5 forces. Et pareil, vous demandez aux autres de faire le travail à votre place quand c'est pas vos clients. C'est vos amis et vous allez identifier vos forces.
C'est ce qu'on appelle la délégation intelligente, ça, on aime. Puis c'est toujours très flatteur aussi pour soi, donc bon exercice à faire.
Exactement, exploitez vos amis, ils vous le rendront bien. Troisième technique, quantifier les bénéfices. Et là-dessus, on a tout le temps du mal à être concret. Ok, tu veux aider les entrepreneurs à développer leur performance. C'est quoi concrètement? Quelle est la métrique qui fait rêver tes clients? Quand je vends des plans agence personnelle, mon agence de création de contenu, je sais que les gens veulent des vues. Si j'étais business coach, je sais que les personnes, peut-être elles veulent du CA ou peut-être elles veulent plus de rétention auprès des équipes que je coach, par exemple sur la partie team building ou que j'accompagne. Trouvez la métrique qui fait rêver vos clients. Et souvent, c'est quand vous présentez vos résultats, qu'est-ce que vous présentez? Donc, est-ce que c'est des vues? Est-ce que c'est des ventes? Est-ce que c'est une augmentation de panier moyen? Est-ce que c'est une position sur Google? Amandine Barthes, professionnelle du SEO, elle vend le top 1 sur Google ou peut-être le podium, le top 3. Quand tu vends à des annonceurs, Aline, par exemple, un sponsor de ton podcast, tu vas vendre un nombre d'écoutes. Donc, si demain, tu lances ta formation sur le podcast, peut-être que la bonne data, le bon indicateur, c'est comment passer de 0 à 50 000 écoutes. Bon, on l'a déjà fait cet épisode, mais tu as compris, l'idée, c'est toujours de se forcer, étape numéro 4, quantifier. Ça ne suffit pas de dire ce que vous faites, on veut savoir combien vous rapportez, peu importe l'indicateur. Mais si vous êtes dans un truc qui est inquantifiable, par exemple, des coachs en confiance en soi, dans ces cas-là, je veux quand même que vous mettiez un chiffre magique. Forcez-vous à me trouver un chiffre, ça peut être par exemple un indice de satisfaction, un classement quel qu'il soit, une prime ou une récompense, par exemple vous êtes LinkedIn Top Voice, vous êtes lauréat du concours Entreprendre ou alors vous avez un taux de satisfaction de 5 sur 5. Mais en tout cas, le chiffre magique, il est important pour appuyer avec du concret.
Là, je vais me faire l'avocat du diable. Quid de faire des promesses sur ce genre de résultats sans être certain que 100% des clients vont l'atteindre?
Ah, alors là, par exemple, tu me dis si demain, par exemple, avec l'agence personnelle, on garantit 1 million de vues.
C'est même pas garantir, c'est par exemple juste si ton positionnement sur l'agence personnelle, c'est je vous aide à faire 1 million de vues en un mois grâce au format court.
Ouais.
Mettons qu'à un moment, ça ne marche pas pour un client. Soit parce que le client, il n'a pas une bonne posture et que tu as beau le coacher en live, finalement, il dégage une énergie qui fait que tu sais que ça n'a pas marché. Soit même des fois où tu dis, bah, ça arrive, c'est rare, mais ça arrive. J'ai déjà eu un coaching où tout est aligné, mais le truc ne prend pas et tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus.
Alors, tu as raison, il ne faut pas faire de fausses promesses. Et la meilleure façon, du coup, quand tu fais ton positionnement et quand tu réfléchis à quantifier, c'est de faire la médiane de ce que tu apportes. Effectivement, c'est important d'avoir des preuves. Pourquoi ? Parce que c'est vrai, les gens peuvent raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mais quand vous allez faire vos appels de closing, les clients, ils vont tous vous demander « Ah bon ? Vous faites 1 million par mois ? Est-ce que vous avez des exemples ?» Et c'est pour ça que c'est hyper important de travailler à partir de l'existant ou de commencer par travailler gratuitement parce que vous récoltez votre fameux use case. Et ce use case, en fait, ça vous permet de mieux convertir par la suite. Mais tant que vous n'avez pas quantifié sur des premiers clients, eh ben, c'est hyper compliqué de vendre un truc en ne sachant pas trop à vue de nez combien ça peut rapporter. Donc pour moi, l'offre irrésistible, la clé, c'est toujours le chiffre magique de quantifier. Et l'idée, ce n'est pas de faire des promesses d'arracheurs de dents, et c'est toujours de travailler votre preuve parce que, évidemment, oui, vous pouvez raconter n'importe quoi, ça se retournera toujours contre vous. Et au moment des calls de conversion, va y avoir un churn si on sent que derrière, vous ne pouvez pas trop étayer votre argumentaire.
Complètement d'accord. Merci d'avoir aussi bien répondu. Ce n'était pas une question piège, mais c'était une question délicate. Mais je sais qu'après, généralement, c'est celle qui revient toujours quand j'ai le même type de discours que toi.
En tout cas, vraiment, quantifier, c'est important. Et je préfère quelqu'un qui quantifie avec de petits résultats. Et vous connaissez la règle. Le mieux, c'est toujours de quantifier avec la plus petite unité de mesure. Par exemple, au lieu de dire en un jour, dites en 24 heures. Parce que les heures pour le cerveau, c'est toujours plus appealing. C'est toujours plus... il sait que c'est une plus petite unité de mesure. Donc, essayez d'avoir des petits repères neuro. Ça vous permet, même si vous avez l'impression d'avoir des petits résultats, vous pouvez transformer. Encore une fois, pour repenser à la logique de dire 24 heures au lieu de dire un jour. Donc, vous pouvez faire en sorte d'être quand même vendeur, même si vous estimez que les résultats vont être, par exemple, sur le long terme. Mais ne vous dévalorisez jamais. Si, par exemple, vous faites du SEO, c'est plus intéressant que vous disiez, voilà, on te permet d'avoir X nombre de vues en 6 mois ou en 1 an que derrière de ne rien dire. Je préfère un petit résultat parce que derrière, les clients savent ce qu'ils achètent, ça renforce votre preuve sociale et surtout, ça montre que c'est du concret. Donc, essayez d'étaler vos résultats avec la loi des mesures pour que ce soit le plus vendeur possible, mais ne vous dites jamais qu'un chiffre ne mérite pas d'être affiché.
Un petit chiffre aura toujours plus de valeur que pas de chiffre du tout.
Exactement.
C'est vraiment ce que je retiens.
Voilà, bien résumé, je vous l'avais dit.
Bon, c'est pas un résumé, je vais juste le répéter là, pour le coup. Étape suivante, je bois tes paroles.
Ouais, alors étape suivante, raconter son histoire. Ça, c'est important aussi, mais vous avez vu, il ne faut pas le faire tout de suite. Parce qu'en fait, d'abord, on a envie, pour être intéressant, commencer par vous intéresser. Donc, le personal branding, ce n'est pas moi, je. Avant de vous intéresser au storytelling, il faut comprendre ce que vous avez à apporter au monde, entre guillemets. Pardon, ça a l'air un petit peu inspirant tout ça, mais l'idée, voilà, c'est avant de raconter votre histoire, qu'est-ce que vous proposez ? Quel est votre talent ? Quelle est votre offre ? Ça évite tout simplement les problèmes parfois de vanity metrics où on les a beaucoup autour de nous, Aline. Des personnes viennent nous voir en mode « Oui, j'ai du succès sur les réseaux, mais en fait, personne n'achète. » Bah oui, parce que quelque part, tu n'as pas mis le tunnel dans le bon sens. Donc, il faut vraiment partir de ce que tu as à apporter au monde et derrière, construire une stratégie autour de ça. Sinon, bah, tu parles juste de ce qui te fait plaisir et derrière, ça ne touche vraiment personne. Donc, pour moi…
Tu es influenceur, sinon, et pas ni créateur, ni marque personnelle.
C'est un autre business model et à l'aube de l'économie des créateurs, ça peut cartonner, mais effectivement, t'as raison, voilà, c'est plus du tout le même métier. Donc, apprenez à raconter votre histoire et bâtir votre storytelling, pas à l'étape zéro, après avoir compris quelle est votre niche, quelles sont vos forces, quels sont les bénéfices et comment vous les quantifiez. Et bien là, vous allez pouvoir raconter votre histoire. Et dans mon livre, je donne un exemple, un petit atelier, puisqu'à chaque chapitre, il y a un atelier qui te permet de passer à l'action et de gravir un échelon. Et c'est un exercice que je voulais te partager aujourd'hui parce que je le trouve simplissime.
J'adore.
Oui, je le trouve simplissime et je sais que souvent les gens se disent « Ah, je ne sais pas comment raconter mon histoire, je ne sais pas comment parler de moi sans être péteux ou pédant et je ne sais pas quoi poster ». C'est souvent des freins qu'on entend. Et du coup, moi, l'exercice dont je vais vous parler nécessite une feuille, un stylo. Et en plus, il fait toujours un peu de plaisir parce qu'il permet de prendre du recul par rapport à soi. Et moi, j'aime bien appeler ça le chemin de vie. Et vous allez voir, c'est bête et méchant. Et souvent, les choses les plus efficaces sont des choses manifestes juste devant notre nez. Vous prenez une feuille, un stylo et vous tracez votre roller coaster, votre chemin de vie. Quelles ont été les grandes étapes de votre vie ? Et ça, en fait, ça va vous permettre de créer votre storytelling sans avoir besoin de faire un MBA, une formation CPF. Pas besoin de vous prendre la tête, le marketing, c'est du bon sens. Dessinez votre chemin de vie, votre roller coaster, ça peut avoir la forme que vous voulez, mais vous allez trouver vos milestones. Et ces milestones, c'est autant de posts qui sont intéressants à partager. Aujourd'hui, mes gros bangers, Aline, c'est aussi simple que j'ai dessiné mon chemin de vie et je vais faire des posts du genre 8 juillet 2023. à ce moment-là, je fais ça, et tout d'un coup, il se passe ça. Et ça, c'est une superbe façon de bâtir son storytelling hyper simplement, et ça cartonne, quels que soient les réseaux sociaux. Je commence avec la date et j'explique ce qui s'est passé avec mes mots. C'est le carton assuré. Il n'y a pas besoin de ChatGPT, il n'y a pas besoin de se creuser la tête. Et en plus, c'est un exercice que je trouve hyper agréable et hyper intéressant en introspection.
J'adore, et je sais que j'ai pris cette habitude, mais il y a des années. C'est pas quelque chose qui est processisé chez moi, mais il y a toujours un moment dans l'année, je me dis, ah tiens, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Et en fait, j'ai une page sur mon Notion toute bête, mais pour chaque année, je mets en 4-5 bullet points tous les grands temps forts de mon année, tu vois. J'aurais pas d'exemple comme ça, et par exemple, ça peut être un déménagement, un changement de business, un milestone en termes de chiffre d'affaires, etc. Et en fait, quand on fait ça au bout de 3-4 ans, quand on relit ce qui s'est passé il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 6 ans, on se dit, ah bah oui, c'est vrai, cette année j'avais fait ça. Alors des fois, on oublie des choses importantes, donc c'est bien de se les réapproprier. Et puis surtout, on se rend compte, ah bah dis donc, quelle progression j'ai eue. Et puis du coup, ça peut aussi servir à créer du contenu par derrière, à créer un storytelling, à créer une présentation. Et c'est tout bête à faire. Hein.
Ouais, et le petit carnet de gratitude puissant antidépresseur, mieux que le Xanax 100% naturel, un petit carnet au pied de votre lit. Et le soir, quand parfois on a le cœur un peu lourd de tout ce qu'on n'a pas fait, de toutes les réponses qu'on n'a pas suffisamment bien formulées, tous les trucs qu'on a oubliés, qu'on n'a pas bouclés, le petit carnet qui dit qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui. Ça peut être le matin, le soir, et c'est moi, en fonction de ça, je fais mon kiffomètre de la semaine, qui est un de mes contenus qui cartonne tous les vendredis. Le kiffomètre.
Qui est largement plagié et repris, parce que j'ai vu.
Oui, en même temps, le kiffomètre est fait pour être partagé, hein, ça fait partie du kiff, mais effectivement, parfois, c'est fait sans finesse. Mais pour le coup, j'adore ce format parce qu'il est bête et méchant et je le recommande aussi beaucoup aux entrepreneurs. Tu sais pas quoi poster ? Le résumé de ta semaine. J'accompagnais un mec qui a une agence de food et il fait toujours des événements invraisemblables. Et comme c'est sa normalité, comme c'est son talent, il est assis dessus, il ne le voit pas. Et je lui dis, mais Valentin, tu fais tous les événements les plus cools de la capitale. Moi, j'ouvre mon Instagram, tu me déprimes. Il me dit, ah bon, et tout, tu regardes mes stories ? Je fais, bah oui, même s'il y a deux personnes. Moi, je la regarde, je m'en fous. C'est genre, tu passes des moments invraisemblables. Et en fait, je lui dis, pourquoi tu fais pas un carrousel à la fin de la semaine pour t'amener d'autres clients, de toutes les belles OP de marque que tu lances? Et ça, c'est le building public. Pour nous, c'est évident. Mais lui, tu vois, il est assis sur cette vie de rêve à faire tous les plus beaux événements, la Fashion Week, machin. Je vois ses stories, je me dis, c'est pas possible qu'il fasse tout ça. Ça donne trop envie de l'acheter. Mais lui, il s'en rend pas compte. Bah, à la fin de la semaine, tu postes 5 photos, une photo par jour que tu as prise sur ton téléphone et tu fais, tu sais, comme font les Instagrammeurs. Hein, j'ai rien inventé. Tu vas voir sur l'Instagram de Squeezie, Life Update, et le mec, il met 5 photos de sa semaine. Bah, vous racontez une histoire autour de votre expertise sur 5 temps forts de votre semaine. Vous allez voir à quel point les posts, en fait, quand on a la bonne méthodo, c'est simple comme bonjour et ça s'écrit très vite.
J'ai commencé à faire ça il y a 2-3 mois, mais plutôt au mois, avec 10 photos du mois. C'est un peu le caméra roll, etc. Et effectivement, c'est très simple à faire. C'est fun même pour toi. Ça te crée un historique et ça cartonne.
Les gens. Exactement. Faites votre journal Extime. Étape numéro 5. Trouver ses Avengers. Il y a un petit atelier dans mon livre, le Dream 100. Les 100 personnes avec qui vous rêvez de collaborer. Je peux vous dire qu'en 3 ans, j'ai presque bâti mon Dream 100. Donc au début, vous vous dites, ah mais non, un tel s'intéressera jamais à moi. Et puis en fait, vous allez voir que dans ces 100 personnes, au début, il y en a 5 qui vont répondre. Après, il y en a 10. Et puis, à la fin, comme dans un Pokédex, à la fin du jeu, vous allez vous rendre compte que vous en avez croisé pas mal et que surtout, vous êtes tout le temps en train d'en faire rentrer des nouveaux. Donc, on ne vous a pas fait confiance tout de suite. C'est pas grave. Laissez aux gens le luxe de pouvoir changer d'avis. Vous, ça vous arrive aussi. Parfois, on change d'avis sur les gens. Je peux vous dire que dans une marque personnelle, il y a souvent ce truc. C'est une question que m'a posée un copain, François Allais. Il a un super podcast qui s'appelle « Serial Entrepreneur ». Et il m'a posé cette question lors d'un épisode à Aline et ça m'a un peu chamboulé parce que c'est tellement vrai. Il a dit, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui, au début, t'ont fermé la porte et quand ils ont vu que ce que tu faisais marchait, t'ont finalement ouvert la porte, leurs bras ont changé d'attitude? Tellement.
Et bien sûr.
Est-ce que c'est intéressant de se focusser là-dessus et est-ce que nous-mêmes, on le fait pas pour les autres? Juste parce que, encore une fois, le jeu de la marque personnelle, c'est au lieu d'essayer désespérément de pousser les portes, d'attirer des gens influents, remarquables, devenez vous-même remarquable. Et en fait, à partir de là, t'inverses le rapport de force et faut pas en vouloir aux gens quand t'as rien fait de remarquable, que eux sont sollicités comme pas possible. Bah, en fait, c'est que tu brilles pas encore assez et c'est pas de leur faute. Faut aussi se responsabiliser. Alors parfois, il y a aussi des cons, hein, ça arrive. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça nous arrive beaucoup et en même temps, ayez toujours cette posture de quand vous faites votre Dream 100, parfois, il y a des gens qui vont répondre tout de suite. Parfois d'autres plus tard, mais vous enfermez jamais dans la rancœur, la rancune, parce que même vous, vous êtes peut-être en train de baser des gens qui sont à l'étape d'avant et qui se disent « Ah, ben tel m'a pas répondu ». Donc, c'est le jeu du Dream 100, ça se renouvelle tout le temps et laissez le temps bien faire les choses.
Est-ce que toi, personnellement, tu as des personnes qui t'a fermé la porte ou à qui t'as dit non à un moment et qui ensuite ont explosé et à qui t'as dit « bon, bah, finalement, je veux bien ».
En fait, j'ai pas cet exemple-là, mais parce que je pense que c'est très humain qu'on note les erreurs chez les autres et moins chez nous-mêmes. Donc en fait, quand on me dit ça, je vois que les injustices que j'ai subies et un tel. Et moi, j'ai aussi des gens autour de moi qui refont la même erreur. C'est-à-dire qu'ils m'ont pas fait confiance la première fois, ils ont vu que ça marchait et ils recontinuent à me bolosser. Et je me dis mais j'aimerais qu'ils me fassent confiance tout de suite, tu vois, sur mes projets. Mais en fait, non, ça n'arrivera jamais. Mmh. Et ça me rend triste. Et machin, et je fais du ouin ouin. J'ai que ces cas-là, et je pense que c'est aussi pour ça que j'essaie toujours de me responsabiliser, parce que je pense qu'en fait, on voit pas les erreurs qu'on fait, on voit pas les gens qu'on vexe. Tu vois, hier, on a fait le dîner des créateurs, et du coup, c'est un dîner qu'on partage avec 15 personnes. Et tu vois, mon conjoint, quand on est rentré, il m'a dit: Caro, t'as pas fait attention, mais t'as passé beaucoup de temps avec tes amis. Et ça m'a vachement chamboulé cette nuit. C'est le truc d'hypersensible. Ouais. Tu sais, on te dit un truc, et genre, après, j'étais là, ah, je suis une mauvaise personne. Et en fait, c'est le truc de. Quand c'est toi, tu vois pas tes erreurs. C'est la mauvaise foi naturelle. On l'a tous, cette maladie-là. Et du coup, je trouve que le meilleur moyen de se pardonner ça, c'est de pas en vouloir aux autres. Je pense qu'il y a plein de gens auxquels j'ai pas répondu. Tu vois, tout à l'heure en off, tu me disais, ah, un tel, je vais pas répondu. On reçoit tellement de messages. Moi, mon Insta, un message sur deux, c'est Alexandra qui répond parce que parfois j'ai besoin d'aide pour pouvoir ne pas me griller. Donc, parfois, c'est le jeu des réseaux sociaux, c'est tu sais plus qui a ouvert le message. Parfois, j'ai arrêté de répondre alors qu'en fait, j'étais juste avec. Et oui, je pense que ça m'est arrivé, si je veux être honnête, ça a dû arriver sur un paquet de personnes sans le faire exprès et sans jamais avoir la logique de « ah, tu n'es pas assez influent » parce que moi, mon parti pris, c'est de ne jamais sélectionner, même pour le dîner des créateurs. Il y a plein de gens que ça étonne. C'est « ah, du coup, il n'y a pas de sélection ». Non. J'aime pas sélectionner dans la vie. Je pense que la vraie sélection, c'est les énergies du cœur, les gens de qui tu te sens proche ou pas. Et le reste, c'est juste un écosystème qui se pondère en permanence, tu vois. Enfin, c'est ma logique.
C'est du bon sens, c'est du marketing. Et du coup, on arrive à notre dernière étape. Et après, on fera un petit récap très rapide de tout parce qu'on a dit beaucoup de choses autour de beaucoup de piliers.
Mais comme je sors de live, j'ai bu beaucoup de café. Alors, j'espère que je ne vous ai pas saoulé de parole et que je n'ai pas parlé trop rapidement. C'est un peu...
Mais continue à nous saouler de parole parce que c'est tellement intéressant ce que tu racontes. Moi, je suis prête.
Bon, tant mieux. Le dernier point, c'est la discipline, c'est le pouvoir. Et je m'inspire volontairement d'une phrase incroyable de la sœur William. Je vous mettrai le lien. Aline, comme ça, le mettra dans les ressources de l'épisode. C'est un Reels qui me donne des frissons, mais sur tous les bras. Où en fait, bah, elle explique, elle dit... Le truc, c'est que quand tu veux faire les choses et que tu veux réussir, si tu penses que il n'y a pas de prix à payer, c'est que tu ne mérites pas le succès et le succès n'arrivera pas. Le succès arrive avec la discipline et la discipline, ce n'est pas un asservissement, c'est le pouvoir. La discipline, c'est la liberté parce que tes projets se réalisent que quelque part par la besogne, par le labeur. Donc, j'aime beaucoup ces discours. Bon, vous verrez, c'est un Reels vraiment ricain et tout avec la musique aspirationnelle, mais moi, ça me donne des frissons dans tout le corps et j'y crois vraiment à ça, à cette réussite qui n'arrive pas comme sur les réseaux sociaux par magie, mais qui vraiment se nourrit au quotidien dans l'effort, dans le sacrifice. Alors voilà, la discipline, c'est le pouvoir, les routines que vous allez mettre en place, votre capacité ou pas à déléguer, parce que maintenant, vous l'avez compris, c'est aussi ça, le jeu d'une marque personnelle qui grandit, c'est vous laisser aussi la marge de pouvoir évoluer, d'avoir du temps pour vous, d'avoir du temps seul, d'avoir du temps sur vos prochains projets. Et pour ça, il faudra accepter de ne pas être toujours madame parfaite, de décevoir des gens, de ne pas être parfois à la hauteur de ce qu'on voit sur vos réseaux. Il va falloir vous pardonner et être gentil avec vous-même. Donc voilà, la discipline, c'est le pouvoir, les bons outils pour vous accompagner, les plateformes de data analyse sur les réseaux sociaux, les Metricool par exemple, qui vous permettent de programmer vos posts, de recevoir des rapports personnalisés pour comprendre qu'est-ce qui fonctionne sur telle plateforme, les documents Notion qui vous permettent de préparer un peu votre media kit à chaque fois qu'on vous invite sur un podcast ou que vous postulez sur un podcast. Mettez en fait une press room où on peut retrouver vos photos, on peut retrouver un petit pitch sur vous, on peut retrouver vos derniers épisodes de podcast. En fait, facilitez la vie de ceux qui collaborent avec vous. C'est ça aussi le jeu de la marque personnelle. Si vous voulez trouver des sponsors, mettez-leur vos chiffres au bon endroit, le détail de tous vos tarifs. Faites attention à la tête du client, parce que quand on price à la tête du client, ça finit toujours par se savoir. Donc, mettez les choses dans des process. Écoutez le podcast d'Aline. Il est fait pour ça, pour que vous mettiez encore plus de structure sur vos activités. La structure et la discipline, c'est la liberté.
J'adore ça. Il y a un truc que tu as dit, on en a déjà parlé, mais la manière dont tu l'as formulé, ça m'a encore plus convaincue et je me dis ça vaut le coup qu'on le répète, c'est que marque personnelle ne veut pas dire tout faire tout seul.
Exactement.
Et ça, je pense que je viens de le conscientiser une étape plus loin, que de construire du personal branding ne veut pas dire je dois faire mon contenu tout seul et je dois répondre tout seul au message et je dois être tout seul à communiquer avec mon audience, etc. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose où il faut que les gens se le rendent dans la tête, que c'est pas parce que c'est vous et que c'est votre visage que ça veut dire derrière, comme tu disais tout à l'heure, il y a pas 14 personnes qui travaillent, qui gèrent vos réseaux sociaux. Alors peut-être pas 14, mais au moins peut-être une. Toi-même, t'as une équipe qui est avec toi, moi aussi.
Ouais.
Et il ne faut pas que les gens aient la pression de dire parce que c'est du personal branding, je dois tout faire moi-même.
Exactement. Et franchement, soyez gentils avec vous-même. Et c'est ça aussi, la marque personnelle, c'est très exigeant. Et si vous ne voulez pas tomber justement dans la pression de ce personnage, ce syndrome du super-héros, et c'est vraiment, soyez dans l'attention. On est notre principale ressource quand on est entrepreneur. Donc, il faut faire très attention à sa machine. Et voilà, et être gentil avec nous-mêmes et nous pardonner aussi. Parce qu'on l'a dit, la marque personnelle, c'est faire en sorte de se survaloriser dans son business. Donc, on a beaucoup, beaucoup de pression, beaucoup de responsabilités, peut-être le double. La contrepartie de ça, c'est let go. C'est pas grave si t'as pas été parfaite. C'est pas grave si dans ce podcast, t'as dit le mot de trop ou le mot de pas assez ou t'aurais dû dire les choses comme ça et t'as pas été sympa avec telle personne et machin, tu vois, au salon Go Entrepreneur. Je m'en veux encore une semaine après, je rumine parce que j'ai croisé quelqu'un qui s'est pointé devant moi et qui m'a dit bonjour. Et en fait, je me suis sentie un peu, tu sais, j'étais en train de chercher le stand d'Erol, le téléphone à la main, occupée, stressée. Dans ce salon, il y a beaucoup de monde. Et en fait, cette personne m'a dit bonjour et j'ai répondu bonjour et j'ai tourné le dos. Et c'était hyper pain beige de ma part. Et après, je m'en suis voulu. Et je me suis dit en même temps, après, à la fin de la journée, c'est pas ce qu'on retiendra de vous, que vous soyez pas tout le temps madame parfaite. Donc, laissez-vous tranquille.
C'est un beau mot pour boucler la boucle, pour récapituler. Puis après, tu as une petite conclusion avec la cerise sur le gâteau, donc j'ai hâte que tu nous en parles. Mais pour récapituler du coup les 6 piliers et un peu le plan d'action pas à pas pour commencer à bâtir sa marque personnelle, c'est 1. Trouver sa niche, 2. Identifier ses forces, faites travailler votre entourage, 3. Quantifier les bénéfices, essayer d'avoir une promesse précise, quantifiée, mesurable pour vos futurs clients, raconter son histoire et dessiner son parcours de vie, trouver ses Avengers, donc c'est faire la liste des 100 personnes avec qui on aimerait collaborer, qui nous inspirent, et ensuite 6, le pouvoir de la discipline, de l'organisation, etc. Est-ce que j'ai bien résumé, Caro ?
C'est excellent, et en plus, on mettra une petite description détaillée avec aussi le rapport de HubSpot sur les social media trends qui dit 87% des recherches aujourd'hui des utilisateurs ne sont plus sur Google, mais sur les réseaux sociaux. Il y a quand même aujourd'hui pas trop de questions à se poser sur faut-il être ou pas sur les réseaux sociaux. La réponse est oui. Après, quant à la forme, ça c'est à vous de le décider.
J'avais lu un rapport du groupe média Rain Group aussi qui disait que 82% des clients vont sur vos réseaux sociaux avant d'acheter chez vous, juste bien pour sûr. Regarder qui vous êtes, votre actualité, etc. Donc voilà, encore des chiffres qui disent que, comme tu dis, il n'y a pas de question à se poser sur est-ce qu'on doit être sur les réseaux ou non.
Et du coup, la suite pour tous les entrepreneurs créateurs qui nous écoutent, eh ben, effectivement, d'abord, c'est effectivement l'évolution des formats. Donc l'évolution des formats avec l'explosion de la vidéo qui arrive même grosse exclue. Et tu le mettras dans les ressources de l'épisode, je t'enverrai l'article de TechCrunch qui a été beaucoup trop sous-documenté. Aujourd'hui, même LinkedIn se tiktokise avec un feed vidéo qui est en ce moment en test aux États-Unis et qui va faire que ça y est, la vidéo débarque enfin sur LinkedIn.
Ça va faire hurler.
La vidéo verticale qui est quand même le gros hack de l'année, qui est un format qui se redistribue partout. Moi aujourd'hui, la vidéo verticale est déjà dans mes top contenus et je vois que LinkedIn valorise de plus en plus ce format. C'est un format qui a beaucoup de ROI parce qu'une fois que vous avez fait votre vidéo de 30 secondes, vous n'avez pas besoin de vous poser la question quel contenu pour quelle plateforme, ni d'avoir une stratégie dédiée. Les nœuds au cerveau qu'on se fait en début d'activité, franchement, vous pouvez poster la même chose partout. C'est une énorme légende qu'il faut avoir une stratégie dédiée. Pour l'instant, en tout cas, quand vous lancez votre marque personnelle de 0 à 1, vous n'avez pas besoin de raconter des histoires différentes. Vous pouvez bien sûr personnaliser, adapter le ton. Moi, je retravaille un peu toujours le message, mais vous pouvez tout à fait communiquer les mêmes choses avec du coup ce format vidéo qui se décline à l'infini. Et la deuxième grosse opportunité de l'année sur la marque personnelle et pour tous ceux qui créent du contenu, c'est bien évidemment la traduction. Puisqu'on parle beaucoup aujourd'hui d'IA et du chamboulement que ça va être pour l'économie des créateurs et des entrepreneurs. Mais aujourd'hui, la vraie grosse opportunité, c'est à partir du contenu déjà créer, vous permettre d'aller toucher un marché 10 000 fois plus élevé, c'est-à-dire le marché anglophone, le marché hispanophone. Et maintenant, avec l'IA, vous avez la possibilité de décupler l'impact de vos contenus existant juste en faisant des traductions. Traduction de ton blog, Aline, de Je peux pas, j'ai business, la traduction. Pourquoi pas, tu sais que Spotify est en train d'organiser, pareil en bêta, le fait que tu puisses poster ton podcast en plusieurs langues. T'imagines la bombe que ça va être pour nous les podcasteuses.
C'est vertigineux en fait quand tu t'imagines ça.
Et pour YouTube, c'est déjà le cas. Aujourd'hui, tu peux updater ton contenu sur la même chaîne jusqu'à, je crois que c'est 15 langues. MrBeast, par exemple, ses shorts sont accessibles sur YouTube dans 15 langues. Donc déjà sur YouTube, bientôt sur le podcast, très accessible sur vos articles de blog. En gros, l'opportunité aujourd'hui, c'est d'aller à l'international. Et même si vous vendez de la formation, un bouquin, quoi que ce soit, le fait de traduire vos contenus existants, pour moi, c'est une opportunité vraiment sous-évaluée.
On parle souvent en business de c'est quoi l'opportunité x10 qui peut nous permettre de faire x10 sur notre chiffre d'affaires, notre audience, notre rapidité d'exécution, etc. Et clairement, pour moi, ça, c'est un x10.
Merci Aline de m'avoir reçue.
Merci Caro, parce que comme toujours, c'était une bombe en termes de valeur ajoutée. Moi-même, je sais que j'ai pris plein de notes et que je vais réécouter l'épisode pour l'appliquer à mon propre cas personnel. Donc, trop bien. Et comme toujours, merci pour ta générosité, pour tous les exemples aussi. J'ai trouvé ça très actionnable. C'était parfait.
Génial. Merci. J'espère que ça vous aura inspiré cet épisode. Merci beaucoup, Aline, de m'avoir reçue. Et je vous dis à très vite sur les réseaux que vous connaissez, LinkedIn, Instagram. Le 2 mai sort mon livre. Donc, vous pourrez, au moment de la sortie du podcast, vous pourrez vous le procurer. Évidemment, c'était mon gros projet de l'année. J'ai voulu faire un livre parce que c'est le format le plus démocratique qui soit. Évidemment, quand on sort un livre, pour ceux qui en ont sorti, vous le savez, on ne devient pas riche en sortant un livre. Mais par contre, quel bonheur de pouvoir mettre en fait tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on a appris à destination du plus grand nombre. Et du coup, dans ce livre From Zero to Hero, je partage ma méthode, la méthode de mes accompagnements, qui sont des accompagnements privés que je fais pour très peu de personnes et qui sont du coup à un prix que pas tout le monde ne peut se permettre. Donc, je voulais qu'on ait un peu le condensé de cette méthode en self-service dans un bouquin qui coûte 23€ et que tout le monde peut se procurer pour créer, lancer sa marque personnelle sous la forme d'activités, de tests pratico-pratiques. Et voilà, et j'ai hâte que vous puissiez rejoindre en fin de page, je donne un challenge pour qu'on puisse se sentir accompagné en lançant sa marque personnelle, parce que finalement, la marque personnelle, tu l'as compris, c'est aussi et surtout un travail d'équipe.
J'adore. Très bonne conclusion. Merci pour tout, Caro. Je mettrai évidemment tous les liens, y compris les ressources qu'on a citées dans la description de cet épisode de podcast. Et encore merci pour tout et à très vite.
Merci à tous. Ciao, ciao.
Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. C'était une bombe en termes de valeur ajoutée. Je vous invite à également aller consulter l'article de blog qui accompagne cet épisode de podcast, qui est évidemment en lien dans la description de cet épisode, dans lequel vous allez pouvoir retrouver tous les piliers que Caroline a cités. Encore une fois, tous les liens dont on a parlé dans cet épisode sont référencés en description de cet épisode de podcast. Merci à tous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde !